cœur de l'info. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, merci de démarrer la semaine en notre compagnie sur VOA Afrique. Avec vous ce matin au micro, Nicolas Pineau et Anne Albertson, à la une de notre émission.
Pâques célébrée dans le deuil au Kenya après le carnage des Chababs à l'université de Garissa.
Le fait que Chabab opère de façon croissante sur le territoire kenyan n'est pas une surprise. L'organisation n'est pas aussi affaiblie qu'on le dit et on le répète.
Au Burkina, toujours aucune trace de l'otage roumain enlevé samedi à Tambaou.
Insécurité au Mali, après les derniers tirs de roquettes sur Gao, la préoccupation est grande chez les Maliens.
La recrudescence des insécurités urbaines et interurbaines sur l'ensemble du territoire, les vols de bétail et autres en milieu rural sont source d'inquiétude pour les populations.
Et comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho et le Journal des Sports. Tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération, mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
La majorité chrétienne du Kenya a fêté Pâques dans le deuil hier, après le massacre de l'université de Garissa commis par un commando des Chabab. Un deuil national de 3 jours a commencé dans le pays, à la mémoire des 148 victimes. Les drapeaux ont été mis en berne au Kenya. Sur le plan de l'enquête, le ministère kenyan de l'Intérieur a révélé qu'un des membres du commando a été identifié comme étant un jeune kenyan d'ethnie somalie, diplômé de la faculté de droit de Nairobi. C'est dans ce contexte que le président somalien appelle le Kenya à faire front uni contre Al-Shabaab. Hassan Sheikh Mohamud a déclaré à VOA Afrique que ce groupe est un ennemi régional qui doit être confronté en tant que tel. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
Les déclarations du chef d'État somalien interviennent 3 jours après le massacre d'au moins 148 personnes à l'université de Garissa dans le nord-est du Kenya. Le président Hassan Sheikh Mohamud se dit horrifié et profondément attristé par cette attaque. Selon lui, l'objectif des Chabab somaliens, en prenant principalement pour cible des chrétiens, c'est de diviser les communautés chrétiennes et musulmanes du Kenya. Le président somalien a eu des entretiens avec les dirigeants kenyans, les exhortant, dit-il, à s'unir face à cette menace terroriste. « Nulle part dans l'islam est-il écrit qu'il faut tuer les non-musulmans », rappelle M. Mohamud, déclarant qu'Al-Shabaab est un ennemi sans dignité qui s'en prend à des zones vulnérables parce qu'il ne peut attaquer avec succès les institutions militaires et gouvernementales. Hassan Sheikh Mohamud a réaffirmé néanmoins son opposition à l'érection de murs de séparation et de protection entre le Kenya et la Somalie.
Toujours au chapitre religieux, les chrétiens du Niger ont célébré Pâques cette année dans des conditions particulièrement difficiles. Leurs lieux de culte et dans certains cas leurs maisons ont été pillés et incendiés en début de l'année dans les violences de manifestations contre le magazine français Charlie Hebdo. Des attaques qui avaient fait, je vous le rappelle, 10 morts dans le pays. Écoutez le témoignage du pasteur Soumaïla Labo de Niamey.
Nous avons fêté Pâques avec un esprit très serein. Ça nous a permis quelque part de continuer à prier encore pour que le Seigneur fasse grâce à notre peuple, notre nation, pour que les uns et les autres puissent accepter de réaliser que c'est une façon pour nous de faire face aux épreuves de la foi. Et cela nous a permis et nous permet toujours d'avoir notre foi renforcée et aller de l'avant en tant que chrétien nigérien. Beaucoup ont été touchés dans leur fond intérieur, non seulement les événements, la gravité des événements, mais aussi la réaction des chrétiens les a véritablement touchés dans leur cœur.
Le pasteur Soumaïla Labo, il était joint à Niamey par Timothée Donogmaï.
Au Burkina Faso, toujours aucune trace de l'otage roumain enlevé samedi à Tambaou. Ses ravisseurs auraient pris la fuite vers le Mali ou le Niger, mais l'armée burkinabé n'a pas révélé leur direction. Dans un communiqué, le ministère roumain des Affaires étrangères affirme que l'otage n'a pas été blessé au cours de la fusillade qui a précédé son enlèvement. Le rapt de samedi est une première dans ce pays sahélien, jusqu'alors épargné par les enlèvements d'occidentaux, contrairement au Mali et au Niger voisins.
À Gao, dans le nord du Mali, une femme a été tuée, 3 membres de sa famille blessés dimanche matin par des tirs de roquettes. La mission de l'ONU au Mali condamne fermement cette attaque terroriste sur les populations civiles et innocentes. La MINUSMA dit avoir renforcé sa présence et ses patrouilles dans la ville et ses environs.
Incertitude concernant le prochain sommet africain contre Boko Haram, mercredi à Malabo. Après avoir annoncé dimanche la tenue de ce sommet, la CDAO est ensuite revenue sur son communiqué, présentant ses excuses. Pour l'heure, aucune information ne permet de déterminer si le sommet a été annulé ou simplement reporté.
Près de 500 migrants clandestins africains ont été arrêtés dans le sud algérien par l'armée. Le ministère algérien de la Défense précise que deux détachements des secteurs de Tamanrasset et d'Ingezam ont arrêté ces migrants clandestins de différentes nationalités africaines. Fin 2014, Alger avait déjà renvoyé dans leur pays 3000 Nigériens après un accord avec Niamey.
Au Togo, prolongation des congés de Pâques. Le gouvernement a annoncé que la rentrée scolaire fixée initialement demain était reportée au 4 mai prochain. La raison principale pour que la présidentielle du 25 avril se déroule en toute sérénité. Cette prolongation suscite pourtant l'inquiétude des parents et des élèves, surtout ceux qui passent des examens. Esotina Boyodé est l'un des responsables de la Coalition nationale pour l'éducation nationale du Togo. Il estime que cette prolongation des congés est un moindre mal.
Parce que jusqu'à présent, il y a une fluctuation très nette entre les revendications de la SCT, c'est-à-dire la finalité des travailleurs du Togo, et les membres du gouvernement. Et même, il y a un peu malentendu entre les centrales syndicales. Il y a 6 qui ont donné, disons, un résumé de leur concertation avec le Premier ministre et le gouvernement, alors que la SCT n'est pas prenante sur les temps qui ont trouvé quelques prétendues solutions. Donc il faudrait croire un peu de temps pour que le gouvernement, les autres centrales et la SCT harmonisent leur position pour que la reprise de classe puisse avoir lieu.
Esotina Boyodé, joint à Lomé par Timothée de Nangmaï.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dossier nucléaire iranien, Barack Obama tente toujours de convaincre les Américains et ses partenaires israéliens que l'accord cadre signé la semaine dernière avec Téhéran est un bon compromis. Le président a répété hier que la sécurité d'Israël n'était pas remise en cause. Henri Francisque.
Dans une interview accordée au New York Times, Barack Obama a répété que la défense d'Israël par Washington était inébranlable. L'administration américaine a d'ailleurs rappelé début mars à Israël qu'elle lui avait apporté plus de 20 milliards d'aides militaires depuis 2009. Balayant les critiques israéliennes, le président américain a réaffirmé que l'accord cadre signé avec l'Iran était le meilleur compromis possible.
There is no option.
Il n'y a pas d'autre option plus efficace pour empêcher que l'Iran n'obtienne la bombe atomique que les efforts diplomatiques et l'accord que nous avons trouvé. Et c'est démontrable. Balayant ses assurances, Benjamin Netanyahu a dénoncé l'accord sur le programme nucléaire iranien. Aux yeux du chef du gouvernement israélien, cet accord cadre est très mauvais. Il laisse l'état terroriste prééminent de notre époque avec une large infrastructure nucléaire. Cet accord est un rêve pour Téhéran, mais un cauchemar pour le monde, a ajouté Benjamin Netanyahu. L'Iran et la communauté internationale ont jusqu'au 30 juin pour signer un texte définitif.
On reparle d'Israël qui a débloqué ce dimanche une partie des fonds qui reviennent à l'autorité palestinienne et qui étaient gelés depuis 3 mois. Colère du président palestinien Mahmoud Abbas qui exige la totalité des fonds retenus par Israël qui entendait protester ainsi contre l'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale. Hier, Israël a approuvé le transfert d'environ 380 millions d'euros. Puis les forces de sécurité égyptiennes ont abattu le chef du groupe djihadiste Ajnad Misr, qui a revendiqué plusieurs attaques meurtrières contre des policiers ces derniers mois. Selon le ministère de l'Intérieur, il a été abattu par les forces de sécurité. Voilà, ainsi s'achève ce journal. On passe à présent à la Minute Éco présentée ce matin par Félix Yepa Cizemrou.
Le gouvernement du Soudan du Sud a décidé de contracter un prêt de 500 millions de dollars auprès de la Banque nationale du Qatar. Selon l'agence de presse APEA, Juba a placé son pétrole brut inexploité en garantie. Mais ce prêt pourrait entraîner le pays dans un cycle dangereux d'endettement. L'économie du Sud-Soudan semble battre de l'aile en raison de la chute des prix du pétrole. L'agence française de développement AFD a conclu avec le gouvernement sénégalais, vendredi à Dakar, deux conventions de financement d'un montant de 19,678 milliards de francs CFA, environ 35 millions de dollars, destinés au secteur de l'agriculture et de la santé. La signature de ces accords a été effectuée par M. Amadou Ba, ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, et M. Jean-Pierre Marcelli, directeur du département Afrique subsaharienne de l'AFD. Et les députés français ont adopté vendredi l'instauration du paquet de cigarettes neutres dans le pays à partir de mai 2016, une mesure combattue par l'industrie du tabac et les buralistes, dont les protestations ont été relayées en séance par l'opposition de droite. Elle prévoit qu'à compter de mai 2016, tous les paquets de cigarettes vendus dans les bureaux de tabac de France auront la même forme, la même taille, la même couleur et la même typographie sans aucun logo. Le nom de la marque continuera toutefois d'apparaître en petits caractères. Pour être définitivement validée, la mesure, comme l'ensemble du texte, devra encore être entérinée par le Sénat, contrôlé par la droite.
Et c'est l'heure des sports dans notre émission. Nous retrouvons Élisée Ongpatin. Bonjour Élisée.
Bonjour Nicolas.
Le football africain à la fête ce week-end, 16e de finale retour de la Ligue africaine des champions.
Le tenant du titre, l'Entente de Sétif, s'est qualifié pour les 8e de finale. Auteur d'un match nul 1-1 à l'aller, le club algérien s'est imposé à domicile face au Gambien du Real Banjul 2-0. Qualification également pour le Maghreb de Tétouan qui a éliminé Kano Pilaz. Au prochain tour, les Marocains seront opposés aux Égyptiens d'Al Ahly du Caire, double vainqueur des Rwandais d'APR. Même scénario pour le Stade malien, vainqueur 2-1 contre les Gabonais de Manga Sport après un succès 3-1 à l'extérieur.
Justement, Élisée, le Stade malien va affronter le tout-puissant Mazembe en 8e de finale. Que ce fut dur pour les Corbeaux.
Le club congolais a renversé une situation mal engagée après sa défaite 1-0 à l'aller face au Mamelodi Sundowns. Renfort Kalaba, Ali Samanta et Roger Clavet à Salé ont permis aux Corbeaux de s'imposer à domicile 3-1. Mission accomplie également pour Al-Hilal du Soudan après son nul 1-1 au Malawi. Les Soudanais s'étaient largement imposés à l'aller 4-0. Qualification également de Sanga Balende qui a sorti le Coton Sport de Garoua. Ça passe aussi pour l'AC Léopard de Dolizy qui affrontera justement en 8e de finale les Égyptiens de Smouha. A noter la présence au prochain tour des deux clubs tunisiens, l'Espérance de Tunis et le club sportif sfacien.
Ce week-end a également été consacré au 16e de finale retour de la Coupe de la Confédération.
Et la belle qualification de la SEC d'Abidjan qui s'est imposée 2-1 sur la pelouse de Al Ittihad de Tripoli après avoir été tenue en échec à domicile à l'aller. Les Mimos affronteront au prochain tour les Maliens du 11 créateurs qui ont éliminé les Nigériens du Sahel Sporting Club à Niamey. Bonne soirée pour les clubs maliens puisque ça passe également pour Djoliba qualifié aux dépens des Égyptiens de Petrojet. Même chose pour les Gabonais de CF Mounana malgré leur lourde défaite de 3-0 face au Dynamo Power. Qualification pour les Sud-Africains d'Orlando Pirates, des Ghanéens d'Assofoc qui ont mis fin au parcours des Sénégalais d'Olympique Ngor, battus 3-2 à domicile après avoir déjà perdu 2-1 à l'aller.
Qualification de l'autre grand club congolais, l'AS Vita Club.
Exactement Nicolas, ce malgré sa défaite de 1-0 face aux Mozambicains de Ferroviaro à l'aller, les poulains de Florent Ibengue se sont largement imposés 3-0. La RD Congo aura deux représentants pour les 8e de finale. MK qui a éliminé les Soudanais d'Ali Chandi, autre qualifié, l'Azo Chilef, vainqueur d'Oroya au tir au but. Des 8e de finale qui verront la présence de Zamalek et de l'Étoile Sportive du Sahel.
Allez Élisée, on fait maintenant le tour des stades en Europe.
Direction la France avec la 31e journée et le Classico, l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain. Victoire des Parisiens 3-2. Ce succès leur permet de garder la première place devant l'Olympique lyonnais. En Espagne, l'attraction de la 29e journée, ce sont les 5 buts de Cristiano Ronaldo qui ont permis au Real Madrid de battre Grenade 9-1. Le FC Barcelone garde toujours la première place avec 4 points d'avance sur les Merengues. Le choc de la 31e journée en Angleterre a vu la nette victoire d'Arsenal 4-1 face à Liverpool. Les Gunners sont provisoirement 2e derrière Chelsea, solide leader qui a d'ailleurs battu Stoke City 2-1.
Avant de se quitter, on va d'abord vous donner cette information de tennis. Novak Djokovic, roi de Miami, pour la 5e fois de sa carrière, le Serbe numéro 1 mondial a remporté hier le Masters en Floride. Il a terrassé le Britannique Andy Murray 7-6, 4-6, 6-0. Et puis la NBA, le championnat de basket nord-américain. Hier, les Cavaliers de Cleveland sont venus à bout des Chicago Bulls 99-94. L'inarrêtable James Harden, auteur de 41 points, pour donner la victoire à Houston 115-112 à Oklahoma City. Miami battu par Indiana 89-112. Enfin, Sacramento s'impose 107-92 face à Golden State. On va remercier Élisée Ongpatine pour ce journal des sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission en ce lundi matin. Retour sur l'attaque de l'université kényane de Garissa où 148 personnes sont mortes. Nairobi se dit déterminé à combattre les Chababs qui ont revendiqué cette attaque. Malgré la mort de plusieurs de leurs chefs, les djihadistes sont donc toujours opérationnels et menaçants, même au-delà des frontières somaliennes. Pour une explication, j'ai joint Roland Marchal, chercheur au CNRS.
Le fait que Shabab opère de façon croissante sur le territoire kényan n'est pas une surprise, au moins pour trois raisons. La première, c'est que Shabab, en fait, a redoublé d'efforts dans la province du Jubaland, donc qui est frontalière avec le Kenya, et évidemment a une capacité de frappe de l'autre côté de la frontière qui est beaucoup plus forte. La deuxième, c'est que Shabab veut montrer qu'il existe, hein, que l'organisation n'est pas aussi affaiblie qu'on le dit et on le répète, malgré le fait que des frappes aient tué des responsables importants. Dans le même temps, la présence de militaires kényans à Kismayo est un problème pour Shabab. Puis le troisième aspect, c'est quand même que Shabab, depuis quelques années, essaye de développer l'idée qu'il essaye de créer un mouvement djihadiste au Kenya.
Aujourd'hui, comment se finance Al-Shabab ?
On peut toujours commencer à évoquer les dons faits par Al-Qaïda dans la péninsule arabique, puisque c'est la filiale d'Al-Qaïda qui est la plus proche de Shabab. Fondamentalement, les deux sources de financement restent les mêmes que depuis le début, c'est-à-dire d'un côté la diaspora et de l'autre également, si vous voulez, une espèce d'économie de la protection avec les milieux d'affaires somaliens, essentiellement à l'intérieur de la Somalie, c'est-à-dire du Somaliland à Kismayo, où les grands et moins grands opérateurs économiques payent pour simplement être qu'on les laisse faire leurs affaires.
Est-ce que, comme en Afghanistan, la solution militaire en Somalie n'a pas montré ses limites et on oublie souvent le volet réconciliation ?
Un volet militaire, dans les circonstances actuelles, il doit évidemment exister. Ce qui me semble tout à fait par contre frappant, c'est qu'à plusieurs moments, il y a eu des possibilités, il y a eu des moments où on aurait peut-être dû jouer cette carte de engagement, comme on dit en bon anglais, et on n'a pas voulu la jouer parce qu'on était tellement sûr de gagner. Je pense aussi que même si les États occidentaux, l'Éthiopie et le Kenya sont absolument en faveur d'une réduction militaire de Shabab, ils oublient complètement de s'interroger sur la dimension sociale de ce qui se passe et notamment le fait que Shabab continue à avoir des soutiens significatifs, même si minoritaires, dans la société somalienne et au-delà.
Le chercheur Roland Marchal joint à Paris. Retour sur l'insécurité grandissante au Mali. Tir de roquettes sur la ville de Gao ce dimanche, explosion et attentat peut-être déjoués vendredi à Bamako. Le climat est anxiogène pour les Maliens qui font de la situation sécuritaire une de leurs préoccupations majeures. Les explications de notre correspondant dans la capitale malienne, Kassine Traoré.
L'explosion du vendredi 3 avril 2015 s'est déroulée dans la résidence d'un ressortissant burkinabé. Il a été arrêté. Les services spécialisés ont relevé dans les décombres la présence de composants explosifs dont les origines de la nature seront déterminées par les 10 services. Yacouba Traoré, habitant de Sirakoro Megetano.
Quand je suis arrivé sur les dés, j'avais questionné certains des gens que j'avais trouvés sur place. Ils m'avaient dit que le matin, il y avait eu un taxi qui était venu. La fin des chariments. Donc, peu de temps après le départ de ce taxi, il y a une cette détonation. Il paraît qu'il y a un lot de détonateurs. Comment ces détonateurs sont arrivés ici? Certainement, il y a eu de la complicité. Certainement qu'il y a eu un réseau.
Au moins 3 roquettes ont été tirées sur la ville de Gao dans la matinée du 5 avril 2015. L'une d'entre elles a atteint une maison, entraînant la mort d'une femme et blessant 2 autres civils. Cette attaque vient s'ajouter à une longue liste. Comme nous l'explique Modibo Sidibé, présidents des partis phares lors de leur conférence sur le défi sécuritaire au Mali.
La question, combien cruciale du nord du Mali, terrorisme, économie criminelle, groupes armés, absence de l'État, domine la question sécuritaire qui pourtant ne se réduit pas à elle. La récurrence des insécurités urbaines et interurbaines sur l'ensemble du territoire, les vols de bétail et autres en milieu rural sont source d'inquiétude pour les populations car elles réduisent leur mobilité et pèsent sur l'économie locale. Les récents actes terroristes à Gao, ici à Bamako, ont fini de convaincre définitivement les Maliens de la dimension djihadiste régionale de l'insécurité qui frappe ici comme ailleurs.
Le parti phare au cours de cette rencontre n'a pas fait que dénoncer. Souleymane Kone, premier vice-président des phares.
La norme internationale est un agent pour 300 personnes. Aujourd'hui, nous avons le ratio un agent pour 3500 personnes au Mali. Au-delà de tout cela, il faut absolument que nous ayons un système de renseignement fiable pour anticiper un certain nombre de choses. Mais en même temps, il faut joindre le citoyen à ça. Il faut que aujourd'hui, le citoyen se sent concerné par la sécurité.
Plusieurs personnalités politiques de la société civile ont participé à ces débats, comme Sidi El-Meidi Baka de Kidal.
Aujourd'hui, je pense que les Maliens ont compris que le terrorisme, c'est pas seulement clair, mais il devient aussi noir. Donc, faisons énormément attention. Pas d'amalgame et surtout pas d'injustice. Donc, le problème du Mali, c'est pas un problème du Nord, c'est pas un problème du Sud, c'est un problème du Nord et du Sud.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Épidémie de méningite et de rougeole au Niger. Les autorités sanitaires du pays recensent déjà une cinquantaine de décès dus à la méningite. Abdoul Razak Idrissa, notre correspondant à Niamey, fait le point.
C'est l'analyse de la situation épidémiologique du pays sur les 13 premières semaines de l'année en cours qui ont permis aux autorités sanitaires d'observer la recrudescence des cas de méningite et de rougeole au Niger. Manou Agali, ministre de la Santé.
En ce qui concerne la méningite, 345 cas, dont 45 décès malheureusement, soit une létalité de 15,30%, ont été notifiés. Il est important de souligner que les cas ont été recensés selon les régions. Les districts en épidémie ont été classés selon les seuils fixés par l'OMS. Le seuil d'alerte, 3 cas pour 100 000 habitants. Le seuil épidémique, 10 cas pour 100 000 habitants. Pour ce qui est de la rougeole, un total de 2041 cas, avec malheureusement des décès, ont été notifiés, soit une létalité de 0,1%.
La situation est donc inquiétante puisque pratiquement c'est dans toutes les régions que des cas ont été enregistrés. Le ministre de la Santé rassure tout de même.
La situation est sous contrôle. Cependant, nous devons rester vigilants. La surveillance continue d'être renforcée et la prise en charge prompte des cas est assurée.
Le Niger, pays à potentiel épidémique élevé et faisant partie de la ceinture de la méningite, est assez souvent confronté à des épidémies de plusieurs maladies, notamment les épidémies de méningite, de rougeole et de choléra, au cours de la période allant généralement de janvier à juin. Abdoul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Un symbole en Côte d'Ivoire, après 16 ans d'interruption, le pays renoue avec le Salon international de l'agriculture et des ressources animales à Abidjan. Au cours de la cérémonie d'ouverture du Sahara, tous les intervenants ont souhaité un soutien fort aux agriculteurs. On fait le point tout de suite sur place avec notre correspondant Germain Dri.
Ce sont environ 700 stands et plus de 500 000 visiteurs qui sont attendus à la troisième édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le salon étant aussi une activité commerciale, les exposants venus d'une dizaine de pays de l'Afrique, de l'Ouest, du Nord et du Centre n'ont pas caché leur joie de se retrouver dans la capitale économique de Côte d'Ivoire.
Je m'appelle Bafé, de la commune de Wissessé. Je participe au Salon de l'agriculture d'Abidjan pour valoriser, vendre nos produits du Maroc.
Madame Kra, je suis agricultrice. Le Sahara est bienvenue. Venu pour nous, pour vraiment nous frotter à tous les esprits qui peuvent nous apporter un plus. Et ce jour, c'est un grand jour pour nous.
Si l'objectif principal du salon est de valoriser les richesses et susciter l'investissement pour les promoteurs, en revanche, quelques acteurs donnent d'autres raisons. Madame Hortense Akangui, maire de Port-Boué, et Dr Cissé Sidiki, directeur général de l'ANADER, une structure du secteur agricole.
Ça procède d'une volonté des autorités actuelles de renouer avec ce domaine aussi important et permettre permettre à l'agriculture d'être toujours à la base du développement.
Nous venons de loin. Il s'agit de montrer à la face du monde et aussi attirer nos partenaires pour leur dire voilà où la Côte d'Ivoire était il y a quelques années et voilà où nous sommes. Nous sommes en train de restaurer notre agriculture à travers un certain nombre d'orientations nouvelles.
Le ministre de l'Agriculture, commissaire du SARA 2015, a saisi cette occasion pour faire le bilan des activités du département dont il a la charge. Koulibaly Mamadou Sangafoua.
Les productions de rente ont connu en 3 ans une croissance de 14%. Quant aux productions vivrières, elles ont connu une hausse de 28% sur la même période. Nous avons dénombré plus de 600 000 emplois créés dans le secteur agricole. Pour ce qui concerne les revenus distribués en 2014, c'est plus de 5 000 milliards de francs CFA distribués aux agriculteurs. Les acteurs souhaitent un renforcement du niveau des investissements agricoles, notamment les investissements publics.
La République islamique du Maroc est l'invité du 3e salon. Au nom de son pays, le Premier ministre Abdel Hilal Ben Kiran s'est fait l'avocat des paysans.
Ça ne devrait plus se dire que l'Afrique a besoin des autres pour se nourrir. Ça n'a pas de sens. C'est à nous de nourrir les autres s'il le faut. Tout ce qu'il faudra faire, on devra le faire pour aider nos paysans. Ce n'est pas seulement la productivité. Nos paysans, c'est l'âme de nos pays. C'est eux qui gardent les valeurs quand les villes modernes les perdent.
Alassane Ouattara, président ivoirien, s'est attardé sur les performances enregistrées et annoncé d'autres défis.
Le premier défi est celui de la productivité agricole, le renforcement de la recherche, de l'innovation et de la formation. Il nous faudra produire et mettre à disposition de nos agriculteurs des semences et des plants de qualité.
Germain Dri, Abidjan, VOA Afrique.
À Kinshasa, c'est une première. L'Assemblée nationale vient de mettre en place une commission nationale pour les droits de l'homme. Son rôle, gérer les cas de violation. Mais la constitution de cette commission fait déjà polémique. Elie Sango a joint l'un de ses membres, le président de l'ASADO, l'Association africaine pour la défense des droits de l'homme, maître Jean-Claude Katendi.
Pour la plupart, ce sont des personnes qui ne sont pas très bien connues des mouvements associatifs en République démocratique du Congo. Et pour la plupart aussi, nous savons que ce sont des personnes qui sont pro-gouvernement, en sorte que la question de leur indépendance est remise en cause dans la mesure où, pour nous, cette commission, s'il ne suit pas d'une certaine indépendance vis-à-vis du gouvernement, parce que vous savez que dans la plupart des cas, les violations des droits de l'homme sont commises par les agents du gouvernement.
Qu'est-ce que vous allez faire exactement?
Nous allons nous accrocher à l'acte qui leur donne un certain nombre de missions à accomplir et nous allons chaque fois faire le monitoring pour voir si ces missions sont accomplies dans l'intérêt de la population ou tout simplement dans le sens de protéger le gouvernement et de ne pas le mettre en cause.
Vous y voyez une manœuvre du gouvernement pour cacher les violations des droits de l'homme, bien sûr.
Oui, bien sûr. Si la commission n'est pas indépendante, elle va commencer à faire des rapports qui ne vont pas être conformes à la réalité. Mais ce qui est bien, c'est que pour nous, la présence de la commission ne nous interdit pas ou ne nous empêchera pas de continuer à faire notre monitoring régulier des cas de violation des droits de l'homme et de pouvoir les publier. C'est dans cette mesure-là que la commission se verra sous pression pour la contraindre, soit à faire le travail comme il se doit, soit à disparaître, parce que si la population, à un moment donné, ne sait plus lui faire confiance, elle n'aura plus de rôle à jouer, et ça sera fini pour elle.
Depuis janvier, une trentaine de Congolais, jeunes défenseurs ou militants pour démocratie, ont été arrêtés. Est-ce que vous allez présenter ces cas à cette commission?
Nous avons adressé un mémo à Madame la présidente de la commission de l'Union africaine pour demander son intervention pour que nos collègues qui sont encore en détention aujourd'hui soient libérés.
Maître Jean-Claude Katendé, défenseur congolais des droits de l'homme.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Boy, look at me in my face.
place. Nah, I come from outer space and I'm a classy girl. I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. And what we got is straight overdue.
C'est sur ces notes de musique que va s'achever Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anna Bertson. Nicolas Pineau à la présentation. Je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Et retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Au cœur de l'info.